tous et à toutes, bienvenue sur Info Club Sandwich, votre émission d'actu locale amiennoise qui passe sur 87.7 FM et sur le DAB+. Aujourd'hui, dans une première partie, nous avons le plaisir d'accueillir Benjamin et Luc, organisateurs du Barbe and Rock Festival. Ils ont accepté de venir nous parler de leur festival prévu du 29 au 30 juin 2024 à Crèvecœur-le-Grand. Bonjour.
Bonjour. Salut.
Comme j'ai pu l'énoncer, prochainement, vous organisez l'édition 2024 du festival Barbe and Rock. Est-ce que vous pourriez nous présenter le festival, s'il vous plaît ?
Allez, tu vas ou j'y vais ?
Vas-y, je t'en prie.
Alors, Barbe and Rock, c'est un festival rock qui a tendance un peu metal punk le samedi et puis plutôt rock et tribute le dimanche. Le but, c'est de faire un peu de salle de ambiance un samedi pour les fans de metal qui veulent que ça bouge et tout, et un dimanche pour toute la famille. Donc ça c'est le concept de base, et du coup cette année le samedi on a été chercher quelques têtes d'affiches sympas type Dagobah ou Black Bombay, peut-être en reparler un peu après la programmation en entier. Et le dimanche on est sur des trucs plus soft, on va dire, avec The Yen qui est mené par des ex Noir Désir, avec des tributes de Red Hot, tributes de U2, genre de choses.
Alors, comme vous l'avez expliqué, du coup, c'est un festival de metal punk, etc., avec deux salles, deux ambiances, entre guillemets, selon les jours. Vous avez pu partager par ailleurs les noms des groupes qui viennent sur scène, que ce soit la programmation du samedi ou du dimanche. Est-ce que vous pourriez nous parler de certains groupes, par exemple, nous les présenter ?
Eh bien, on a décidé de prendre des belles têtes d'affiches qui pourraient parler à tout le monde dans ce monde de metal punk ou de rock. Et surtout, on a voulu faire jouer les plus petits groupes. Ce sont des groupes locaux très proches de Crèvecœur-le-Grand ou de la région. Et du coup, il y a beaucoup d'engouement pour ce festival. On a pas mal de propositions chaque jour. Et on a même organisé un petit tremplin au mois de mars. Et c'est pareil, il y a eu beaucoup de groupes inscrits. On a pu retenir 4 groupes, 2 groupes le samedi, 2 groupes le dimanche. Et on espère ravir tout le public.
Après... La répartition, grosso modo, c'est 50% de groupes qui viennent des Hauts-de-France et le reste qui vient un peu de toute la France, dont les têtes d'affiche. Alors le samedi, on l'a dit, hein, on a Dagobah, Black Bombay, Guérilla Poubelle, qui viennent en tête d'affiche et qui d'envergure nationale ou internationale selon la tournée qu'ils font. Dans les groupes plus locaux qu'on a été chercher, on a été chercher Ravenscrew, un groupe... Damien, je crois, le chanteur est Damien. On a été chercher des gens comme Dépassé, qui est un groupe de punk amiennois. On a été chercher Super Sonic Sucker, qui est passé par le tremplin, qui vient du Nord. Je vais retenir des bêtises. Mmh. Donc, ils viennent du Nord.
Ouais, c'est ça.
Progress, qui vient de la campagne à côté de chez nous, qui est un groupe de métal qui s'est monté il n'y a pas longtemps. Donc, on essaye d'avoir cet équilibre d'aller proposer des découvertes et pas que des trucs connus où il n'y a pas de surprise d'avance. Et puis de faire jouer tout le monde. Le dimanche, c'est à peu près la même répartition. Alors le dimanche, la différence, c'est comme il y a un petit peu de reprise, on a aussi des groupes vraiment purement de crève-cœur, mais qu'on essaye de faire pousser et rendre visible avec les têtes d'affiche à côté. Quoi.
Oui, c'est ça, on leur permet de jouer dans les mêmes conditions que les têtes d'affiche, en fait. Ils sont reçus de la même façon, ils jouent avec le même matos et les mêmes équipes, quoi.
Justement, en plus justement, de découvrir des artistes locaux, etc., français qu'on ne connaît pas forcément, c'est aussi l'occasion de passer un bon moment au sein même du village. Quelles sont les activités en parallèle ? J'ai vu par exemple qu'il y avait la possibilité de se faire tatouer, ou même qu'il y avait des barbiers, je crois. Donc est-ce que vous pourriez nous en parler, par exemple ?
Alors forcément, le festival s'appelle Barbe and Rock, parce que de base, il a été créé par un groupe de barbus, qui s'appelle les Bearded Villains. C'est un groupe international et en France, on est très porté sur le caritatif. Donc, on a créé ce festival. Et effectivement, on ne pouvait pas appeler un festival Barbe and Rock sans intégrer cet univers de la barbe et en plus du tatouage. Donc, effectivement, il y aura normalement 4 tatoueurs sur place et 3 barbiers, 2 barbiers et une barbière même, qui s'occuperont des gens, surtout le week-end. Vous pourrez trouver aussi dans le village des barbus des artisans, que ce soit des couturières, qui proposent des vêtements créés de toutes pièces, sur des styles différents. Nous avons aussi des artisans un monsieur qui recycle tous les instruments de musique pour les détourner et en faire des éléments de déco. Et ce petit village de barbus a un côté caritatif. C'est-à-dire que chaque stand va nous reverser une partie de leurs bénéfices et ces bénéfices seront reversés à une association.
Tu as quelque chose à rajouter ?
Ouais, non, je vous regardais. Non, c'est ça, les stands reversent 10%. En fait, c'est gratuit pour eux de venir, mais ils s'engagent à reverser 10% de ce qu'ils gagnent à l'asso qu'on choisit. D'ailleurs, qu'on a validé, maintenant on a le droit d'annoncer.
Justement, j'allais y venir aussi.
Ça a été validé la semaine dernière. Et là, c'est là que je vais me tromper sur le nom.
La PAPS.
Alors, il y a tellement de lettres. Ouais, l'acronyme, il est tellement long que.
APAPSH.
Ouais, le nom de l'association, c'est l'APAPS. Et en fait, c'est une association qui vient en aide aux jeunes qui souffrent de syndrome d'autisme ou qui ont besoin d'être plus accompagnés et qui a notamment dans ses activités des IME, des instituts d'accueil. Et c'est une association qui a Gournay-en-Bray, donc ça a 30 minutes de Crèvecœur-le-Grand. Donc on a fait tout un peu un cheminement de sélection de l'association. Luc a été rencontré, a passé du temps là-bas pour s'assurer que ça c'était possible, que ça avait du sens de les amener dans le projet. Et puis après, bon, voilà, on a fait tout un petit circuit de décision pour que ce soit collégial aussi de leur côté de venir s'engager auprès de nous. Donc comme ça, on a cet asso. Et puis on est content, c'est bien, ça va être bien. Et on va les faire. Plutôt motivés aussi à participer, à être là, à être présent. Donc.
C'est ça, ils vont tenir un stand aussi pour présenter ce qu'ils font avec les enfants.
D'accord.
Et puis, pourquoi pas même exposer ce que font les enfants sur place.
Justement, avant de parler un peu du cœur du sujet, etc., des stands, je voudrais revenir un peu sur les informations pratiques, peut-être, notamment les prix, ce genre de choses, s'il y a des places. Pour justement venir au festival, est-ce qu'il y a une limite de place ? Est-ce qu'il y a est-ce qu'il faut réserver une place ? Est-ce qu'il y a des préventes ? Quels sont les tarifs ? Comment ça se passe un peu ?
Alors le site internet est ouvert avec une billetterie en ligne. On a décidé de mettre un prix assez bas pour un festival. Là où on est à 28€ sur le week-end. Donc pour 28€, vous voyez 20 groupes en tout. Mm-hmm. Donc ramener à la place pour un groupe, ça fait 1,40€ pour voir un groupe, ce qui est rien du tout. Et sinon, hors passe de jour, on est, pour ne pas dire de bêtises, à 10€ le dimanche et
20€ le samedi.
20€ le samedi.
D'accord. Et c'est possible justement de réserver, faire...
Oui, on encourage très vivement les préventes. Il y a une majoration de 5€ pour les gens qui viendront prendre leur place directement sur le festival.
D'accord.
On reste une asso et un festival associatif. Les préventes, c'est ultra important pour avoir de la visibilité sur ce qui va se passer ce week-end-là. Donc on encourage fortement de passer par les préventes, il y a encore de la place. On est sur un grand site, on a de la place sur le festival. On est un peu plus à la campagne, Crèvecœur c'est pas si petit que ça, mais par rapport à d'autres festivals, on n'est pas limité par la place, donc on peut prendre beaucoup de monde. Maintenant, il faut que ce soit fait dans de bonnes conditions, donc c'est plus facile avec des préventes. Quoi.
Vous pouvez aussi réserver le cashless sur le site internet et un espace camping qui sera gratuit.
D'accord. Pour rester la nuit, pour être prêt le lendemain.
Prêt.
Justement, vous l'avez dit, du coup, vous parliez des stands, etc., des produits locaux, des stands aussi éco-responsables et faits main, donc couturière, etc. Est-ce que... quelles ont été les raisons, justement, du choix de ces stands ? Pourquoi, par exemple, avoir pris des stands qui font des produits faits main, etc., ou éco-responsables ? C'était quoi le...
C'était de base le cœur du festival, en fait. Comme je vous ai dit, c'était un petit festival dans un gymnase avec des artisans locaux. Et on a voulu garder cet esprit. Et en fait, ça nous paraissait... ça coulait de source, en fait.
Ouais, je crois qu'on n'a pas réfléchi à un autre plan, en fait.
C'était... on avait des connaissances, des artisans qui nous ont après apporté d'autres mondes, d'autres artisans qui connaissaient, mais toujours dans le même esprit. L'année dernière, on avait 15 artisans. Et en fait, il y a eu une ambiance dans le village où à la fin, les 15 artisans sont venus me voir en me disant « L'année prochaine, si tu as besoin de nous, on revient. » Ils avaient passé un excellent week-end et du coup, ça coulait de source.
Puis je pense que déjà, un festival, c'est un peu d'impact. Hein, quand même. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'impact écolo dans un festival. Alors si on peut en avoir le moins possible, et puis d'aller proposer des trucs un peu sympas. On avait notamment l'année dernière, et ils vont revenir cette année, un petit stand qui expliquait comment on pouvait recycler du plastique. On faisait des petits médiators, on pouvait venir découper son médiator, voir un peu d'autres usages avec les bouchons de bouteilles et ce genre de choses. Bon, ben ça fait partie un peu de la culture qu'on veut mettre autour du festival, de faire attention à ça. On est en train de regarder si nos bâches de l'année dernière, on peut les réutiliser pour faire du merchandising. Si on essaye de limiter le plus possible pour, grosso modo, avoir une empreinte qui se résume à nos deux groupes électrogènes. Et le reste, on fait attention, quoi.
Justement, vous parliez de l'année dernière, parce que du coup, le festival, ce n'est pas la première fois. Normalement, si je ne me trompe pas, c'est la cinquième édition.
C'est ça.
Quelles ont été vos impressions, par exemple, l'année dernière, en 2023? Est-ce qu'il y a des choses à retenir? Comment ça s'est passé?
Alors, les choses à retenir, les choses positives, on va commencer par ça. Les groupes ont été ravis, les artisans ont été ravis, le public a été ravi. Donc, pour nous, de ce côté-là, c'est une réussite. Ensuite, on est tombé en pleine période de l'histoire des émeutes l'année dernière, avec couvre-feu, interdiction de vente d'alcool forte. Et ça nous a un peu desservis. Donc, on a manqué un peu de place, de moins de places vendues. Il y a même des gens qui ont acheté leur place qui, finalement, ne se sont pas déplacés. Donc, pour moi, c'était le seul point négatif. Mais on n'y pouvait rien.
Ouais, c'est un peu indépendant de notre volonté. Beauvais, Amiens, il y avait un couvre-feu d'installé. On a eu le droit de faire le festival. On était contents. Après, on a fait. Alors, c'est la cinquième édition, mais c'est la deuxième à Crèvecœur-le-Grand. L'année dernière, on a fait 1000 personnes sur le site. Ce qui était correct. Et puis, du coup, on sait qu'on est motivé à faire plus cette année, quoi. Mais non, voilà, ça s'est bien déroulé. On n'a pas eu de soucis. C'était cool, c'était bon enfant. Maintenant, il faut juste plus de monde, quoi. Grosso modo, c'est juste. Enfin, il faut ça, quoi. Puis un petit peu plus de beau temps, on aimerait bien aussi. Hein. Pour le premier week-end de juillet, il faisait 12 degrés à 21 h, c'était un peu frais.
Justement, vous en avez parlé, vous étiez en partenariat avec de nombreuses organisations, tout en étant accompagné l'année dernière, par exemple, par l'association Juste Humain, si je ne me trompe pas.
C'est ça, oui.
Et là, du coup, cette année, vous êtes accompagné par PAPS.
La PAPS.
La
La
PAPS.
PAPS. Quelles sont les raisons justement d'être accompagné par ce genre d'association? Pourquoi, par exemple, vous dites on va être accompagné par une association, par exemple l'année dernière, Juste Humain, qui est une association de soutenant des personnes hospitalisées atteintes d'un cancer? Pourquoi vous prenez cette décision?
Alors du coup, c'est comme le festival est organisé entre deux associations, mon association BVFR Charity travaille déjà avec des associations caritatives. Et Juste Humain, on travaillait depuis un petit moment avec eux. Et ça faisait quelques mois qu'on pouvait plus faire grand-chose, on n'avait plus les moyens de les aider. Du coup, c'est vrai que l'année dernière, on a décidé de prendre cette association. Aider les enfants dans les hôpitaux et les accompagnants, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et à notre niveau, on fait chaque jour tout notre possible pour les aider.
Donc ouais, c'est dans l'ADN du festival, hein, tous les ans. Alors on fait en sorte, on veut changer d'assaut tous les ans, mais d'en prendre une, les amener avec nous, et puis essayer de créer le plus d'échanges possible. Le but, c'est pas juste de dire le village vous reverse de l'argent et basta. Si on peut les faire venir, qu'ils passent aussi un bon moment, qu'il y a un échange qui se crée entre les deux, ça. Bah, et ça peut leur permettre de mettre un peu plus de visibilité sur leur projet aussi. Et puis nous, ça donne du sens à ce qu'on fait. On le fait pas juste comme ça pour le fun. On aime la musique, hein, mais si en plus il y a une bonne action derrière, on a l'impression que la boucle est fermée, quoi.
Ok. Et justement, pourquoi la PAPS, par exemple, est-ce que vous pourriez nous présenter, par exemple, brièvement, ces actions ou...
Ouais, alors pourquoi eux? Alors, j'ai un de mes potes d'enfance qui a perdu son frère autiste l'année dernière et qui a grandi dans l'IME qui était géré par la PAPS. Et donc j'ai connu le week-end de recherche dans la ville parce que enfin, c'était suite à une disparition, c'était un peu compliqué. Donc on a cherché une asso, on s'est dit tiens, on a eu cette expérience là dans l'année où j'ai vu à quel point les gens étaient mobilisés, ils avaient envie de faire bouger les choses et que c'est que de l'associatif, donc à un moment il y a besoin de thunes. Du coup, on a été les voir en disant bah nous on fait un festival tous les ans, on choisit une asso, est-ce que ça vous dirait qu'on vous choisisse? Puis de là, après, Luc a pris le relais, mais d'aller passer un bout de temps, un bout de journée avec eux, discuter avec tout le monde, que ça monte au conseil d'administration, présenter le projet. Enfin, on essaye de faire les choses bien, on veut être sûr que on va leur distribuer de l'argent, on veut que ce soit utile, qu'on sache pourquoi. Donc là, on sait qu'il y a un institut derrière, il y a à faire tourner, il y a des activités, il y a du personnel. L'accueil des enfants handicapés ou autistes ou dans tous ces trucs-là, normalement, c'est une mission de service public, mais qui n'est pas faite comme il faut. Donc, on l'aide, les assos, quoi.
Voilà, j'ai pu rencontrer le directeur de l'IME, qui m'a fait visiter leur site, qui m'a fait rencontrer les enfants et les employés. Mmh. Et on se rend compte que c'est presque un monde à part, en fait. Parce que les enfants ont envie d'apprendre, ont envie de faire des choses. Et les employés, j'ai même pas envie de dire, c'est un travail, c'est une passion. Il faut être passionné pour faire ça. Et leur venir en aide, quelque part, ça nous fait aussi du bien.
Donc il y a un but quelque part derrière, c'est aussi autant pour eux les aider, et en même temps, vous vous sentiez utile avec, par exemple, le festival que vous organisez, les faire connaître, ce genre de choses.
Bien sûr.
Donc cette nouvelle édition de festival sera, en plus de passer un bon moment du coup en famille, de découvrir, d'être entre amis, je me doute quand même que l'organisation, ça prend du temps. C'est pas quelque chose que vous avez fait en un jour. Du coup, à partir de quand, par exemple, vous êtes dit « on va organiser une cinquième édition » et comment ça s'est passé? Quelles ont, par exemple, été les étapes?
C'est assez facile. Hein. L'édition de l'année dernière, c'était les 1 et 2 juillet. Donc, l'édition 2024, elle se prépare au 3 juillet. Voilà.
Dès le lendemain.
Je crois que même déjà, quand on est sur place, on est en train de se dire « ça, faut plus le mettre là. Ça, faut faire plutôt comme ça. Ça, on aura besoin de faire comme ça. » C'est à peu près ça. C'est un an de boulot. En gros, on est à le cœur de l'asso pour les orgas, on est 3. Après, plus ça avance, plus il y a de bénévoles autour de nous, etc. Mais à mener, à tirer le projet toute l'année, on est 3. C'est un truc sur l'année, quoi. Le premier truc, c'est de Vincent qui n'est pas avec nous là, qui commence à aller chercher les groupes, voir ce qu'on va pouvoir proposer comme projet de programmation. Plus c'est des grosses têtes d'affiche, plus il faut s'y prendre tôt. Hein. Mmh. Et puis après, il y a des histoires de planning. Dagoba, Black Bombay, ça nous allait bien aussi parce que Black Bombay a sorti un album en mars, Dagoba le sort début juin, c'était le bon moment d'aller chercher, donc tout ça, ça s'anticipe très longtemps. Et puis, plus ça avance, plus on a aussi les retours des stands de l'année dernière, on va partir chercher l'association, on reçoit beaucoup de propositions de groupe, énormément de propositions de groupe sur une année, c'est 600-700 propositions de groupe. Donc on commence à regarder, à trier, à en sélectionner certains directs. D'autres vont passer par le tremplin. Le tremplin, c'est un événement qu'on fait en mars pour des groupes qu'on vise première scène. Enfin, c'est vraiment, on veut des groupes qui se lancent et on leur donne une première scène pour voir et puis on en sélectionne. Et puis là, on est un peu dans le moment où ça s'accélère. On a les bénévoles qui s'inscrivent, on a la com qui est en route. Faut valider tous les devis, tout bloquer, rendez-vous avec la gendarmerie, avec le dossier sécurité, tout ça.
Donc, c'est quelque chose qui se fait dans un temps long, et ces derniers mois, ça s'accélère un peu plus parce que ça approche, en tout cas.
C'est ça. Donc, là, ça approche fort, ouais.
Comment vous sélectionnez les groupes qui vont passer? Vous parlez de tremplin. Le tremplin, comment ça se passe? Est-ce qu'il est né en même temps que le festival ou arrivé beaucoup plus tard?
Non, il est arrivé un peu plus tard. Comme Benjamin vous a dit, Vincent a fait une petite sélection de groupes qui nous proposent à chaque fois et on valide et tout ensemble. Et il nous fallait des groupes locaux. Et on en a fait jouer quand même pas mal l'année dernière. Et du coup, on ne voulait pas les refaire jouer cette année. Donc on s'est dit, quel est le moyen de trouver des groupes locaux? Et on s'est dit, pourquoi pas un tremplin? Donc c'est pareil. Hein, alors cette fois-ci, salle des fêtes, mais. avec une belle scène, avec du bon matos. Et on a lancé les inscriptions sur Facebook. Et du coup, on a eu quand même pas mal d'inscriptions. Même en indiquant qu'on voulait des groupes locaux première scène, on a des groupes pas locaux et pas de première scène qui se sont inscrits parce qu'ils avaient envie de venir jouer, quoi. Mmh. Et pareil, on a dû faire une présélection de voir s'ils cochaient toutes les cases. Et puis on les a invités à nous rejoindre pour une journée musicale qui a été en plus gratuite pour le public. Donc c'était pareil, encore une occasion de faire d'offrir des concerts et de permettre à des groupes de venir jouer sur une scène sympathique.
Donc ouais, on a un petit bout qui passe par là, par le tremplin. Après, il y a nos choix de programmation à nous en fonction de ce qu'on veut faire. Programmation, c'est quand même beaucoup de ressentis. Enfin, c'est un mélange des groupes qui tournent en ce moment. Parce qu'il y a des groupes où on voudrait les faire venir, mais c'est juste pas le moment. Mmh. Et puis de ressentis de ce qu'on veut faire. Nous, on veut marquer la différence entre le samedi et dimanche. Donc forcément, le samedi, on va chercher des trucs beaucoup plus soit punk, soit métal, et on va y chercher un peu fort. Le dimanche, l'année dernière, on avait fait assez, comment dire, pas soft. On n'avait pas de tête d'affiche pour le dimanche. Là, on avait la volonté d'aller en chercher une. Donc c'est pour ça qu'on est parti un peu à la conquête comme ça de groupe et qu'on a fait venir The Yen. Donc on se donne une ligne directrice et puis après on affine voilà. En fonction de ce qu'on a envie aussi pour que nous ça nous fasse plaisir aussi.
Et justement, est-ce que vous avez rencontré des difficultés à organiser l'événement ou le fait par exemple d'organiser ces festivals depuis 5 ans, ça vous a facilité les choses par exemple le fait d'aller voir la gendarmerie, etc., d'aller voir les organismes, de dire « oui, on a fait ça l'année dernière, donc regardez, vous pouvez nous soutenir, etc. » Est-ce que ça a facilité la chose ?
Oui, bah, alors forcément, on a une implantation qui est déjà à peu près définie. On n'a pas eu de gros pépins l'année dernière, donc ça roule. Enfin, on n'a pas eu de problème de voisinage, on n'a pas eu de problème avec la gendarmerie. Enfin, tout s'est bien passé, c'était bon enfant, il n'y a pas eu de soucis. Donc tout ça, c'est entre guillemets facile. Mine de, on a la chance que la commune de Crèvecœur aussi soit partie prenante et pousse derrière nous. Enfin, n'implante pas un festival de métal sur un stade municipal si la mairie veut pas. Hein. Mmh. Donc c'est un peu important de les tenir dans la boucle. Donc ça va, ça roule. Maintenant, le financement des festivals, c'est toujours un truc, un enjeu incroyablement compliqué. Donc ça, on peut le faire 10 ans. Il faudra quand même tout recommencer à zéro, de remettre sur la table tout le budget, d'aller chercher des mécènes un par un. Des partenaires où il n'y a pas de relations financières, ça, c'est toujours rapide et plutôt facile. Dès l'instant qu'on met un peu d'argent, nous, à dépenser ou eux à donner, là, il y a un peu plus de taf, quoi.
Et justement, pourquoi avoir voulu créer, pour revenir un peu sur le festival, pourquoi avoir voulu créer le festival Barbenrock ? Quelles ont été les raisons ? Qu'est-ce qui a permis les prémices, par exemple, de cette création de festival ?
Bah, comme je vous ai dit, la première édition a eu lieu dans le 77, en région parisienne, à côté de Fontainebleau. Et c'était l'ancien président de mon association qui a eu l'idée comme ça de créer un petit festival dans son village. Donc nous tous, toute l'assaut de barbus, on s'est mis dedans pour l'aider à construire ce festival. Et ça a duré 3 ans là-bas. Et puis après, il y a un truc qui est arrivé et qui nous a empêché de faire quelconque événement, ça s'appelle le Covid. Et donc, on a été coincés, fermés, merci, au revoir. Donc, et suite à ça, le président est parti. Donc, il n'y avait plus de raison qu'il soit organisé là-bas. Et de toute façon, il avait été prévu pour être organisé n'importe où en France, si quelqu'un de l'association voulait le faire. Et du coup, en 2022, moi, j'ai été voir la mairie en tant qu'habitant de Crèvecœur, en disant, bah voilà, je fais partie d'une asso, on a créé un festival. Est-ce qu'on pourrait le faire ici à Crèvecœur, pensant faire la même chose, hein, gymnase, salle des fêtes. Et eux avaient pour projet de faire un gros festival. Donc j'ai dit, allez, c'est parti. Et puis j'ai eu la chance que Vincent et Benjamin me rejoignent dans cette aventure, parce que sinon, j'aurais pas fait grand-chose tout seul.
Est-ce que aujourd'hui, par exemple, vous avez des attentes pour cette édition 2024 ?
Plein de gens. Ouais. On veut que ce soit plein. Tant qu'il y a de la place, on peut faire rentrer des gens. Non, mais c'est l'enjeu. Il est maintenant, il est surtout là. Deuxième année à Crèvecœur. Enfin, c'est un festival qui sort de terre encore. Hein, c'est un peu naissant. Donc le principal enjeu, c'est de se faire connaître. Nous, on sait que techniquement, on va bien accueillir les gens, que les gens vont passer un bon moment. On fait tout pour. Ça reste une ambiance aussi de festival avec des bénévoles qui font d'autres festoches et où du coup tout le monde se parle facilement, c'est bon enfant, il y a jamais de... Enfin, ça, on est convaincu de ça. Maintenant, le grand enjeu, c'est de ne plus être 1000, mais d'être 2000, 3000. On ne veut pas être 10 000 non plus, hein, mais de faire connaître le truc, parce que en fait, c'est le critère qui va pérenniser et faire en sorte qu'on revienne tous les ans. C'est juste qu'il y ait du monde. En fait, si y a 500 personnes de plus, c'est plus facile à organiser que si on reste un peu petit. Donc non, le principal enjeu, c'est de faire venir des gens. Si vous aviez prévu de venir à deux, venez à trois, et puis ça va bien se passer.
Puis s'il y a quelques mécènes qui passent par là,
ils peuvent toujours.
Ils peuvent nous contacter, pas de problème.
Justement, vous parlez de faire venir des gens, et vous avez parlé de bénévoles juste avant. Est-ce que vous avez besoin de bénévoles ou de volontaires pour la préparation du festival? Et si oui, comment ça se passe? Où on peut vous contacter?
Yes, on a besoin de bénévoles pour la préparation, pendant, pour le démontage. Comment ça se passe sur le site? Il y a un onglet, il y a une page bénévole avec toutes les infos à remplir. On prend encore des bénévoles. On a besoin de bénévoles, c'est important.
Je pense qu'on n'a jamais trop de bénévoles.
Ouais, on n'a jamais trop. S'il y a plus de bénévoles, on fait des plus petits créneaux, c'est plus sympa pour tout le monde. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, il faut venir s'inscrire.
Ils sont bien accueillis aussi, c'est ça. Comme les groupes, comme le public, comme les artisans. C'est un peu le maître mot, c'est qu'on veut que tout le monde soit bien, en fait. Que tout se passe bien, que tout le monde soit bien, s'amuse et profite du festival.
Normalement, du coup, il est le 29 et le 30. Les horaires, c'est de midi à minuit et demi, le 29.
Yes, midi et une heure.
Ouais.
Okay. On sait qu'on aura bien une demi-heure de retard.
Il y aura peut-être une ouverture de porte bien avant les concerts, mais ouais.
Ouais.
Et le 30, normalement, c'est de 13h à 21h. Non, de 11h à 21h.
11h à 21h, ouais. On finit plutôt le dimanche.
Pour avoir le temps de se reposer.
Ouais.
On
ne
veut pas trop embêter non plus les habitants.
Et est-ce que vous pourriez nous partager le lieu de...
C'est au stade municipal à Crèvecœur-le-Grand. C'est pas le premier, mais en gros, on dit stade municipal pour faire facile, mais il y a plein de terrains à cet endroit-là. Donc c'est rue du stade à Crèvecœur-le-Grand. Il y a des flèches partout après, c'est facile de nous trouver. Au loin, il y a un château d'eau.
Est-ce que vous avez quelque chose à dire avant de terminer? Une information à partager ou même...
Moi, j'inviterais simplement les gens à venir. C'est pas cher. Il y a une bonne ambiance, 20 groupes, une vingtaine d'artisans. Il y a 4 food trucks, 3 food trucks salés et 1 sucré. Bon, faut venir.
C'est ça. Même si vous aimez. Si au pire, vous connaissez pas les groupes, venez quand même.
Ouais. Mmh.
Ce sera une bonne surprise.
C'est toujours un plaisir de découvrir en plus. Même si on n'aime pas forcément le métal ou le punk, c'est pour l'ambiance aussi.
Pour l'ambiance, pour le spectacle, pour. Enfin, nous, là, on a quand même beaucoup d'habitants qui viennent. Qui viennent parce que c'est à côté, sans forcément aimer les groupes. Et le week-end d'après, on avait plein de messages en mode « Ah, on a pris une claque, on pensait pas que c'était comme ça. » Donc, faut venir. On a un petit, c'est de la proximité. Les artistes, ils sont là avec nous. Enfin, vous n'aurez pas cette proximité dans d'autres festivals plus gros. Là, ils vont être, ils montent sur scène, ils ont fini, ils descendent voir les gens ou voir les concerts d'après. On a cette proximité encore parce qu'on est petit et il faut en profiter. Quoi.
Eh bien, merci d'avoir répondu à mes questions.
Merci à toi.
Pour rappel, nous avons eu l'opportunité d'accueillir Benjamin et Luc, organisateurs du Barman Rock Festival, un événement prévu à Crèvecœur-le-Grand du 29 au 30 juin 2024. N'hésitez pas à rester connectés sur leurs réseaux sociaux afin de réserver votre place et d'être tenu au courant des prochaines actualités. Je vous propose désormais, pour terminer cette émission, l'épisode 4 de la série consacrée à l'e-sport, produit par Sarah Raymond, étudiante du master journalisme de l'UPJV. On se retrouve demain à midi, à bientôt.
Ah, les choix d'orientation. Ça a toujours été un véritable casse-tête. On le sait tous, vous et moi, on ne connaît pas un tiers des métiers et parcours qu'on pourrait faire. Certains domaines sont inscrits depuis longtemps dans les formations universitaires, d'autres commencent à émerger. Et c'est complètement le cas de l'e-sport. Si comme moi, votre niveau aux jeux vidéo se rapproche du néant, alors oui, je suis désolée de vous le dire, mais vous ne finirez pas joueur professionnel dans l'e-sport. Mais par contre, il y a tout un tas de professions autour de ça qui sont tout à fait possibles. Quoi de mieux que d'aller voir justement du côté des étudiants en STEPS ?
Écoutez Virtual Vortex, les héros du clavier.
J'ai rencontré à cette occasion Quentin Auré, vice-président en charge de la coordination des projets nationaux de l'ANESTAPS, une association nationale des étudiants en STAPS. Avec Joseph Bruel, il s'occupe d'une commission permanente e-sport, commission qui fait l'objet actuellement de plusieurs axes de travail.
Oui, alors là, pour l'instant, les premiers projets qui ont été portés, c'est tout simplement de réaliser deux enquêtes. Donc une enquête auprès des universités et une enquête auprès des étudiants STAPS. Et en fait, le but de ces deux enquêtes, en fait, c'est de réaliser une, comme on appelle chez nous, on aime bien le dire, une méthode sandwich. C'est tout simplement de comprendre les problématiques et le pourquoi du comment les universités n'ont pas encore mis en place l'e-sport au sein de leur maquette, ou alors si c'est déjà le cas, comment elles ont pu être amenées à le mettre en place. Et aussi de savoir en fait ce que les étudiants attendent de cette thématique, parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup, mais peut-être que eux, les étudiants, n'ont pas forcément la connaissance et n'ont pas forcément, n'y voient pas forcément d'intérêt en fait à intégrer l'e-sport au sein de la licence. Et donc c'est pour ça qu'on réalise ces deux enquêtes, pour avoir vraiment des chiffres et des données dont on pourrait se saisir pour appuyer nos propos derrière auprès des universités et auprès des autres instances. Tout comme le sport, l'e-sport pouvait être totalement inclusif. Et c'est pour ça que aussi nous on s'est dit, dans la stratégie qu'on veut porter, on veut l'amener vers la licence. Pourquoi ? Parce que pour nous, l'e-sport, ça doit pas être dans la formation, ça doit pas être centré que sur le management du sport. Ça peut être centré sur la préparation physique, ça peut être centré sur donc les APAS, donc la filière activité physique adaptée. Voilà, c'est vraiment ça touche différentes parties et différentes mentions.
Pour l'instant, la spécialisation en e-sport se trouve principalement dans des établissements privés, pour ne pas citer XP Gaming Campus, la Montpellier Gaming Academy ou encore Paris Gaming School. Les universités ne proposent pas encore tout à fait de diplômes spécialisés dans ce domaine. On peut toutefois citer l'université Paris-Cité qui propose par exemple un diplôme d'université e-sport manager qui n'a pas ouvert cette année. En clair, pour Quentin, l'e-sport est un domaine qui mériterait davantage de communication pour pouvoir se déployer correctement.
Je pense qu'on est quand même loin de l'image qu'on avait il y a quelques années du geek qui jouait dans sa chambre. Là, je pense que c'est vraiment reconnu comme une profession à part entière, et surtout au vu de l'engouement que ça prend, que ce soit avec les différents événements qui peuvent avoir lieu ou même les structures qui se développent. Et surtout là, c'est en ce moment en France, c'est vraiment exponentiel. Je pense que c'est surtout un manque d'informations sur la place de l'e-sport au sein de la filière STAPS. Je pense que c'est vraiment un réel manque d'informations auprès des étudiants, mais par contre je pense que les stéréotypes ont été quand même beaucoup déconstruits depuis ces dernières années, où là vraiment l'e-sport et surtout en France a vraiment été vecteur d'une grande évolution, et surtout auprès de l'image qui a pu être porté aux étudiants, en tout cas d'une génération assez jeune. Et en fait, Joseph est essentiellement axé, lui, dans son travail sur les affaires sportives et e-sportives. Donc, ça reste une thématique phare dont l'ANESTAPS veut se saisir courant de ces prochaines années, et qu'on n'est pas du tout, on l'amène pas du tout à reculons, mais on sait que c'est vraiment un travail de lobbying, et c'est un travail de longue haleine. Ça prendra du temps, on le sait, parce que on ne peut pas forcément, nous, de notre côté, débarquer avec nos grands sabots et dire, bon, bah voilà, nous, on veut intégrer l'e-sport au sein des formations, au sein de nos structures. C'est quand même des gens qui, pendant quelques années, ont travaillé aussi de leur côté, et je trouve ça normal qu'on mette du temps à les aborder, et aussi qu'on doive mettre les formes pour aborder ces personnes, parce que jusque-là, elles n'ont pas eu besoin de nous, et je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on pourrait se sentir légitime de se dire qu'elles ont absolument besoin de nous justement pour cette thématique. Ensuite, nous, de notre côté, à l'ANESTAPS, on est assez proche de Francisport. D'ailleurs, ces derniers, ils interviennent aussi sur des temps de formation qu'on appelle des masterclass. Donc, c'est un temps de formation sur une thématique bien précise. Et donc là, c'est l'e-sport et qu'on met à disposition des jeunes durant nos événements. Mais c'est vrai que, comme j'ai pu le dire avant, on se tient quand même très éloigné des grandes instances e-sportives, on veut dire.
Quentin étant étudiant en STAPS, je me devais de lui poser la question, est-ce que finalement l'e-sport et le sport sont similaires?
Pour moi, les deux se rapprochent énormément et surtout, je pense là où on peut le voir le plus, c'est au niveau des valeurs où en fait l'e-sport, comme le sport en général, ça va être vecteur d'énormément de valeurs. Ça va être en fait des très grosses communautés qui se soutiennent mutuellement et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve donc et dans le sport et dans l'e-sport et c'est vraiment, on peut faire la même comparaison au niveau de ces deux sujets. Si on regarde visuellement, oui, il y a énormément de différences avec des sports dits classiques comme du badminton, de la gymnastique, etc. Parce que c'est pas du tout les mêmes efforts physiques. Là où chez l'un, on va retrouver beaucoup de motricité fine. Donc certes, ça demande beaucoup de prépa physique, mais du coup, c'est vraiment un travail de concentration, des gestes vraiment techniques et très précis. Là où l'autre, on va avoir vraiment des grandes dépenses énergétiques, parfois des performances assez extrêmes, on va dire. Donc, je dirais que les deux sont pareils, mais c'est juste que à l'œil nu, on ne peut pas forcément différencier, on ne peut pas forcément se rendre compte de l'effort que ça procure en fait l'e-sport en général. Ça demande vraiment une concentration énorme. Et c'est pour ça que moi, à chaque fois qu'on me pose cette question, pour moi, là où l'e-sport se rapproche le plus du sport, c'est vraiment dans la communauté. C'est pas tous les jours qu'on peut remplir une arène justement avec je ne sais combien de milliers de personnes, que ce soit dans le sport ou dans l'e-sport. On voit vraiment qu'il y a des gens derrière des équipes, il y a des gens derrière des structures, même des entités physiques, en fait, tout simplement parce que les gens suivent la personne qui crée cet engouement. Donc ça ramène énormément de gens.
Je remercie Quentin de s'être prêté au jeu. Cette initiative associative devrait pouvoir compter sur le gouvernement français qui a pour objectif de faire de la France le leader européen du secteur de l'e-sport d'ici 2025.